Moi, je suis en train de me au passé oriental. J'ai réussi totalement ce qui
s'est
de novembre 2011 était un fiasco pour les femmes, c'est ce qu'indique le communiqué de l'Observatoire de la parité publié le 8 mars dernier. La structure se base sur les statistiques de la première étape du processus électoral. Les femmes élues à l'Assemblée nationale n'ont pas franchi le seuil des 10% du nombre des députés nationaux. Le nombre des candidates à la présidentielle était nul, tandis qu'aux législatives, les femmes ont représenté seulement 12% des 18 000 candidats. Cette diminution de la participation des femmes est également remarquée lors de la révision du fichier électoral. En 2006, les femmes constituaient près de 52% de l'électorat. En 2011, les femmes ont représenté 49%. L'Observatoire de la parité lance un nouvel appel urgent pour que les organisations de défense des droits des femmes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui militent pour l'égalité hommes-femmes, se concertent d'urgence et se fixent des stratégies pour affronter les prochains scrutins. Que vous inspire ce communiqué? Que proposez-vous pour que les femmes accèdent à des postes de prise de décision? Madame Espérance Mawazé est notre invitée, elle est directrice de l'Observatoire de la parité. Christine Poutou et Clovis Louboula réalisent l'émission. Justine Siala est à la mise en onde, à la présentation. Marie-Chantal Lumba.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Notre invitée est déjà en ligne. Bonjour, Madame Espérance Mawazou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'au mois de mars pour sortir votre communiqué? Est-ce que vous pensez que ce communiqué aura une forte influence sur les décideurs et électeurs pendant ce mois de la femme? Parce que quand même, ça fait déjà plus de 2 mois que nous connaissons les résultats des législatives et plus de 3 mois pour les résultats de la présidentielle.
Nous avons entendu le mois de mars, comme vous venez de le dire, c'est le mois qui est dans notre pays qui est plus en place par femme devant toute chose. Il y a eu 2 mois qu'on avait déjà les résultats législatifs, mais aussi avec les contentieux au niveau de la Cour suprême de la justice. Nous, on s'est dit, en entendant l'appel, pendant qu'il y avait encore des discussions de compte qui a été élu, qui c'était où, donc ça n'a vraiment pas attiré l'attention. Alors, on a saisi l'occasion de 8 mars, justement, pour lancer cet appel là pour interpeller un peu la société sur les élections féminines et les décideurs sur la participation des femmes au scrutin.
Avec ces chiffres, vous pensez interpeller. Est-ce que vous pensez que cette information aurait effectivement un impact? Parce qu'en regardant dans la société, on trouve que la majorité des femmes est préoccupée pour la survie au quotidien de sa famille.
Non, ça aura de l'impact parce que si vous voyez dans notre communiqué, à la fin, on demande une stratégie, on demande aux organisations et aux personnes qui militent pour les droits des femmes de se mobiliser dans une coalition aux femmes. Et autour d'une personne, je dirais, pour sensibiliser et revendiquer les droits des femmes. Donc, même si aujourd'hui les femmes sont dans la vie, comme vous voulez le dire, là un peu pas très bien, mais nous on dit au niveau des décideurs, s'il y a aussi des femmes, s'il y a des femmes qui sont impliquées dans les prises de décision, il y aura un changement juste à la base.
Je vous invite à suivre notre première série d'auditeurs qui vont nous dire ce que eux ils pensent de ce communiqué et surtout leurs propositions pour que les femmes puissent accéder à des postes de prise de décision. Restez avec nous, Madame Émérance Mawazo. Je vais revenir à vous tout juste après cette première série d'auditeurs pour que vous puissiez réagir face à ces propositions.
Parole aux auditeurs.
Notre premier auditeur est à Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour, Eric.
Bonjour madame.
Oui, Eric, nous vous écoutons. Que pensez-vous de ce communiqué?
Bon. Selon moi, je crois que le faible pourcentage des femmes est dû d'abord, premièrement, au nombre des candidats qu'on enregistre. Pour respecter la parité, il faut enregistrer. Donc, ça, c'est une interpellation à tous les partis politiques. Le même nombre de femmes et le même nombre d'hommes. Et deuxièmement, ça, c'est un constat que j'ai fait ici.
Mm-hmm.
Certaines femmes disent que non, nous ne votons pas pour les femmes parce qu'elles sont orgueilleuses. Et c'est là, je l'ai constaté même dans un hôpital. Lorsque vous arrivez à la réception, vous trouvez une femme là-bas, elle est fière, sa manière d'accueillir les malades et qu'on sort. C'est alors que les autres femmes se disent découragées, c'est la raison pour laquelle elles ne votent pas pour elles.
C'est votre point de vue, merci Eric. Vous pensez qu'il faudrait d'abord que les partis politiques puissent présenter le même nombre de candidats, hommes et femmes, sur leur liste. Et aussi, vous estimez, vous avez constaté que certaines femmes pensent que les femmes sont orgueilleuses, cela n'est pas bénéfique pour que ces femmes arrivent à pouvoir être élues. C'est ce que vous pensez, parler de l'orgueil. Merci Eric, c'est votre point de vue à partir de Kamina. Nous allons à Kananga. Corneille, bonjour.
Bonjour madame.
Oui Corneille, quel est votre point de vue? Nous avons fait une synthèse de ce communiqué. Que pensez-vous de ce communiqué?
Ok, je Corneille, en bas à Kananga. Je pense que le communiqué de la commission de la parité vient d'enregistrer.
Des problèmes avec la liaison téléphonique de Corneille. Lui, déjà au début, pense que ce communiqué est arrivé en retard. Nous allons lire quelques messages de nos auditeurs. Moukalaï Banza, Saint-Pierre depuis Goma, nous écrit ceci. Les femmes ne s'aiment pas entre elles. Rares sont celles qui acceptent de recevoir des injonctions d'une autre femme. Et si elle accepte cette situation, c'est par contrainte. Imaginez qu'elle n'arrive même pas à s'accorder lors des élections. Bono et Guilin, c'est tout à fait normal que la femme ne soit pas véritablement représentée au Parlement, car elle s'est réveillée en retard. Karim, capitaine de Boutembo, la parité effective reste une utopie en RDC, mettant en tête que les élections ne sont pas un jeu d'imagination, des gens peuvent se présenter sans pour autant se mesurer si l'on convient bien ou non. Chacun doit se battre pour gagner une place au Parlement. Si les femmes ne parviennent toujours pas à se faire élire, il faut se demander de leur acceptation par la société ou par leur leader. Quel genre de femmes sont alignées à ces élections? Sont-elles populaires ou non? Ont-elles du charisme? En répondant à ces questions, la solution est prévisible. Alors, si l'on veut une véritable parité à l'Assemblée, il faudrait carrément adopter le système rwandais qui veut qu'un certain nombre de femmes soient cooptées pour pallier ce problème. Le contraire est et restera difficile. Bonjour Anto. Oui, Anto, nous vous écoutons. Que pensez-vous de ce communiqué, mais aussi vos propositions pour que les femmes puissent occuper des postes de prise de décision?
Oui, les communiqués sont tout à fait fondés, parce que même si elles vont rester, la situation a été aussi remarquée, c'est que les femmes n'ont pas été élues.
Mm-hmm.
Mais ce qui explique le faible taux de participation de la femme aux élections, ou ça, ce qui motive à ce que les femmes ne soient pas élues, c'est que d'abord, toutes les femmes qui se sont présentées aux élections, comme ma vie fatale, ils ont dénoté une certaine impréparation.
S'il vous plaît, Anto, on ne vous suit pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Peut-être que la qualité de la liaison téléphonique pourra s'améliorer. Le temps que je puisse lire deux messages, et puis nous allons revenir à vous. Déplacez-vous un tout petit peu, Anto. Il y a Pascal Baraka qui nous écrit ceci. Même si la femme sent que la parité entre elle et l'homme, sa nature la poursuit toujours, elle reste toujours inférieure à l'homme, et cela depuis la création de l'univers. Le fait qu'elle ne soit pas représentée au Parlement est normal. Il y a aussi Jacques Moulakiroua de Béni. L'affaire de la représentation à l'Assemblée est une question de l'électorat. L'émancipation s'est appliquée lors du dépôt et du dépouillement des candidatures. L'essentiel est de pouvoir conscientiser les femmes à voter pour les autres à la députation provinciale, car elles sont nombreuses par rapport aux hommes. C'est une simple question de confiance et d'amour entre elles, et l'on pourra avoir la même chose au gouvernement. Et nous rappelons à Jacques Moulakiroua que jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé cette étape pour les dépôts des candidatures au niveau des scrutins pour les provinciales, mais peut-être qu'ils projettent qu'au cours de ces scrutins, nous aurons plus de femmes candidates qu'on en a eu lors de la députation nationale. Nous revenons à Anto de Lubumbashi. J'espère que cette fois-là, la ligne s'est améliorée. Anto, vous étiez en train de nous dire que les femmes n'ont pas été élues parce qu'elles n'étaient pas bien préparées.
Oui, la majorité des choses sont les femmes qui...
En tout cas, on n'arrive pas à vous suivre en tôt. Peut-être que la réalisation va pouvoir vous rappeler plus tard. Peut-être que la ligne téléphonique pourra s'améliorer parce que nous n'arrivons pas à vous suivre. Le son est tellement bas, on essaie de remonter, mais ce n'est pas possible. La qualité n'est pas du tout bonne. Donc, Anto, vous pouvez éteindre votre téléphone. Nous allons vous rappeler pour que vous puissiez à nouveau intervenir sur les antennes de Radio Capi. Je rappelle à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, si vous voulez participer à cette émission, composez le 081-890-6315, 081-890-6315. Vous pouvez poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs qui portent le logo de Radio Capi, mais aussi vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Mavé, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour madame, Marie-Chantal Lomba, bonjour à notre invité, c'est à tous les auditeurs qui suivent en ce moment.
Oui, de Kananga, quel est votre point de vue?
Oui, mon point est de vue, je base sur les niveaux des considérations, aussi par rapport au communiqué que vous venez de lancer au chef qui vient d'être lancé là-dessus. Mais moi, je voudrais dire ceci. Je sais que nous sommes dans un pays démocratique. L'obligation d'intégration des femmes dans l'Assemblée ou soit dans des hiérarchies qui composent notre gouvernement central n'est pas du tout considérable. Moi, ce que moi je voudrais demander ici, toutes les femmes ne sont pas obligées d'être à l'Assemblée ou soit d'être à la tête d'une structure quelconque définie. Et il est possible de mesurer, d'évaluer d'abord la compétence de la femme qui doit participer à certaines responsabilités qui doivent être assumées. En ce moment, je voudrais demander ceci. Il n'est pas obligatoire. Et les femmes doivent savoir qu'aujourd'hui, même voyant le mandat qui vient d'être expiré, qui vient d'être plutôt, comment dirais-je, était constitué de plusieurs d'hommes et nous n'avons pas vu l'importance
S'il vous plaît, oui, mais vous êtes en train de dire qu'il n'est pas obligatoire, il n'est pas nécessaire qu'une femme puisse occuper un poste de prise de décision, mais vous connaissez quand même la constitution de la population, il y a plus de femmes, c'est presque 52% pour la population congolaise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question aussi d'équité, à part toutes les considérations qu'on puisse avoir, le fait que la femme puisse représenter plus de 50% de la population, est-ce que c'est pas seulement une question seulement de justice, s'il y a des femmes qui sont compétentes?
Oui, à cette question, d'accord. Moi, je ne veux pas que je suis sur la compétence. Nous ne pouvons pas. On parle d'une femme qui est là, qui est là, pour célèbre, pour la femme, pour la mettre là-bas, pendant qu'elle n'a pas la compétence de travailler.
Donc, moi, mon problème, c'est au niveau de la compétence. Il y a la compétence, il y a des personnes, soit des femmes qui sont susceptibles, sont comment costauds à récompenser, ils doivent participer là-bas sans problème. Mm-hmm. C'est là que le problème est la responsabilité. Voilà ma
question. Merci beaucoup, Mavé de Kananga. Donc, une question de compétence, parce qu'au début, vous avez dit que ce n'est pas une obligation. Mais tout juste là, vous dites, bon, si elle a les compétences, donc c'est bon pour elle de pouvoir occuper ses postes. Merci de votre intervention au cours de cette émission. Freddy, vous êtes à Kindu, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, dites-nous.
Oui, bonjour, je m'appelle Freddy Mayong, je vous appelle à partir de Kindu, Manema.
Allez-y, quelle est votre réaction face à ce communiqué?
En rapport avec ce communiqué, par rapport avec ce communiqué, moi je pense que les ONGD, au lieu de se limiter à faire des constats, devraient d'abord tenir compte des pourcentages et des taux d'alphabétisation qu'il y a chez les femmes par rapport aux hommes dans notre pays.
Mmh.
Parce qu'il faut aussi tenir compte des critères que la loi électorale fixe pour que l'on soit candidate, pour que l'on représente la population. Sur base de ces critères-là, on se rendra compte que les femmes jusque-là n'ont pas encore réalisé les critères. Parce que s'il faut tenir compte des critères, nous avons par exemple le niveau d'éthique. Ici, chez nous, Manema, les ONGD devaient d'abord renforcer le niveau d'éthique des filles. Donc, fournir un effort pour que les filles se donnent beaucoup plus aux éthiques. Si nous considérons aussi cet autre aspect, il faut avoir l'expérience dans le monde économique et social, tout ça. Les femmes sont très peu qui se donnent dans tous ces domaines-là. C'est ce qui fait que nous puissions aujourd'hui arriver à ce constat-là. Maintenant, moi, je proposerais qu'au lieu de constater seulement, je proposerais que les ONGD se donnent un objectif, par exemple, décennal, comme on est en train de faire pour les grands projets. On dit, par exemple, que d'ici 2020, il faut que les femmes soient, n'est-ce pas, représentées dans les assemblées, dans des postes de décision. Et à cela, il faut prendre des dispositions telles que alphabétiser beaucoup plus les femmes, les rendre très mobiles et très actives dans la gestion.
Mm-hmm.
Tout d'abord la gestion locale pour qu'elles puissent nous représenter. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème, madame.
Donc à votre niveau, il faudrait qu'elles puissent d'abord se battre au niveau des locales, parce que nous avons reçu dans notre émission, nous avons organisé plusieurs fois des émissions sur la femme, et en écoutant les représentants des femmes, l'objectif cette année c'était d'atteindre 30% et plus tard voir comment elles pourraient évoluer. Donc à votre avis, vous pensez qu'il faut vraiment se battre sur les locales et puis voir comment augmenter le nombre de ces femmes au niveau des provinciales et puis au niveau de l'Assemblée nationale.
Oui, oui.
Merci.
C'est à cela que je pense, parce que c'est une affaire qui a déjà duré la prédominance de l'homme sur la femme, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Donc,
je pense qu'on ne peut pas vouloir combattre ça pour 10 ans seulement. Il faut prendre du temps, il faut vraiment solidifier la base pour arriver à cet objectif. Nous sommes tous d'accord que la femme doit aussi être représentée car elle est quasi majoritaire dans notre pays.
Mm-hmm.
Mais la qualité qu'elle doit afficher là-bas, on ne doit pas se faire représenter par complaisance, tout simplement parce qu'on est femme ou tout simplement parce qu'on est homme. Mais c'est la qualité, notre constitution tient beaucoup sur la qualité. Donc,
mm-hmm.
il faut renforcer la capacité de la femme pour qu'elle nous représente. Pas en complaisant, mais valablement.
Merci, Freddy de Kindu.
Parole aux auditeurs.
Madame Espérance Mawazo, vous êtes directrice de l'Observatoire de la Parité. Vous avez sorti ce communiqué. Dites-nous, vous venez de suivre cette première série d'auditeurs. Qu'en pensez-vous?
Merci Marie-Chantal, et je remercie aussi les auditeurs pour les propositions et ce qu'ils ont constaté. Moi je pense que lorsque les auditeurs de Kanima, Eric, parlent que le nombre de femmes qui ne sont pas nombreuses, et que les partis politiques devraient mettre sur leur liste, donc pour les femmes comme les hommes, même sur l'égalité, 50-50-50, C'est vraiment parmi les si vous avez bien vu notre communiqué, on a parlé de la loi électorale qui n'a pas favorisé la participation de la femme. Bon, il n'y a pas de sanction sur l'antisécurité de la loi électorale qui dit dans chaque liste, si la liste n'est pas par les filles, c'est pas représenté par les hommes et les femmes. Donc, c'était pas une occasion pour que la liste soit rejetée. Mm-hmm. Donc, dans notre constitution, dans ton article 14, on parle que la femme doit être représentée dans toutes les institutions du pays et que les femmes devaient garantir cette représentation. Mm-hmm. Donc, nous, on a lancé parce que l'article 13 de la loi électorale est même en contradiction avec l'article 14 de la Constitution du pays. Alors, lorsqu'il y a des auditeurs qui disent que je suis d'accord avec Freddy Dekin, lorsqu'il parle que le taux d'affamation des femmes est trop élevé, nous, on le sait aussi, je crois que maintenant, il y a beaucoup de campagnes qui sont lancées pour l'éducation à la jeune fille. Mais ça, il ne faudra pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on voit tellement qu'il passe que la femme n'a pas beaucoup étudié, contrairement à l'homme. Il y a aussi le poids de l'éducation dans notre pays. Je n'ai pas entendu un auditeur ou une auditrice parler de ça. L'éducation de base, aussi, les femmes, elles représentent 52%. Et elles sont en réforme par rapport à l'éducation vis-à-vis des hommes. Donc, la coutume est là, qui pèse, il y a les critères sociaux qui pèsent, il y a même les problèmes familiaux qui pèsent. Et ça, on ne voit pas. Lorsque nous, il y a aussi des femmes qui ont étudié, il y a des femmes compétentes, mais elles ne sont pas représentées sur les listes des partis politiques. Elles ne sont pas dans des endroits là où elles prennent des décisions. Nous, on parle. Il y a un auditeur, je ne sais pas qui a parlé, j'ai oublié son nom, qui a parlé du système du Rwanda. Et tout ça, nous, dans notre communauté, on a parlé, on a dit, on encourage les partis politiques. Donc, la coalition qu'on veut mettre en place, parce qu'il y a déjà beaucoup d'organisations et des femmes qui adhèrent, on demande, on encourage les partis politiques d'aligner volontairement, de placer volontairement 30 à 50% des femmes. Oui. Pas parce que la loi électorale n'a pas tenu compte.
S'il vous plaît, Madame Oiseau, Madame Oiseau, vous dites que la loi électorale, elle était d'ailleurs dernièrement révisée. Donc, même c'était les femmes, les associations féminines, lorsque l'article concernant la parité sur les listes électorales n'a pas été changé comme elle le souhaitait, c'est un échec pour la femme. Mais est-ce qu'il y a un autre recours pour que cette loi puisse être modifiée en faveur de la femme avant les prochaines élections?
Pour la révision de la loi électorale, je pense que vous souvenez, il y avait eu des organisations féministes, des réseaux de femmes qui ont fait des plaidoyers pour que la loi soit changée. Même à notre niveau, ici, à Kokitibou, on avait fait des plaidoyers avec d'autres organisations pour que ça soit changé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous dis pourquoi. Dans l'Assemblée passée, si j'ai bonne mémoire, il y avait 44 femmes et 456 hommes. Vous pouvez imaginer ces hommes qui étaient dans l'Assemblée réviser la loi pour que ce soit en faveur de la femme, un système de quotas ou un système de sanctions au cas où les femmes ne seraient pas sur la liste. Donc, ce qui supposerait que sur les 456 hommes qui étaient dans l'Assemblée passée, donc il y aurait presque la moitié qui n'allait pas se représenter aujourd'hui si la loi était déviée. Donc, j'ai appelé ça donc les hommes masculins qui sont dans l'Assemblée. Et ils ne peuvent pas adopter, bien voter une loi qui va être à l'air des faveurs. Mais, n'empêche, aujourd'hui, on n'est pas en train de se soucier, pas essayer, il y a déjà les réseaux Castro, au niveau des Kinshasa, qui a introduit pour attaquer encore la région de la loi électorale, au niveau de la constitution, parce que c'était voté, donc, Castro avait déjà déposé. Donc, n'empêche, nous, d'autres organisations, on est là maintenant, on est derrière cette requête-là pour l'alimenter aussi, pour que ça ne soit pas rejeté.
Et à votre niveau, vous ne pensez pas que la femme a manqué aussi un peu de manière à pouvoir mieux se confirmer pour que cette loi puisse vraiment être révisée en sa faveur, comme ça peut-être affûter ses armes pour la prochaine révision si elle a lieu?
Je ne sais pas très bien suivi, madame Chantal.
Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que c'était un échec parce que la femme n'a pas pu faire asseoir la parité dans cette loi électorale, est-ce que ce n'est pas aussi une leçon à tirer pour que prochainement elle puisse mieux appliquer ses armes et pouvoir faire adopter des lois en sa faveur?
Non, mais je ne trouve pas ça, ce n'est vraiment pas un échec, hein. C'est Paris, et donc ça fait partie du processus du combat, quoi. Donc, on vient de quelque part, et on a des visions, on mérite que ça soit pour les femmes. Donc, ça a découragé les organisations féminines, les réseaux féminines, qui produisent une requête au niveau de la Constitution. Donc, c'est pas, et au jour d'aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui se fait pour suivre ce dossier au niveau des relations sociales.
Oui. S'il vous plaît, madame Oazel, nous allons, vraiment la qualité de la communication est en train de se détériorer davantage. Nous allons essayer de pouvoir vous rappeler peut-être que la qualité va s'améliorer. Et puis aussi, c'est possible que vous puissiez un tout petit peu peut-être changer d'endroit où vous êtes. Peut-être que ce sera meilleur. Nous le temps d'écouter Edouard qui se trouve à Lumbashi, Marcel de Colosie et d'autres auditeurs qui veulent donner leur point de vue au cours de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Edouard.
Bonjour madame.
Oui Edouard, nous vous écoutons.
Oui, je disais que c'est un problème sérieux, un problème de la parité, parce que vous vous en doutez, la femme elle-même doit déjà comprendre que c'est elle-même qui doit peser de son poids pour que la parité se sente. Parce que vous voyez, mais pas seulement parler de la parité sur le plan de prise de décision, comme vous parlez, nous sommes même sur le plan professionnel. Moi, j'ai ici à l'hôpital Saint-Louis, un deuxième hôpital de la République, où vous avez sur 80 médecins moins de 10 femmes, imaginez-vous. Ces femmes, quand vous allez à la faculté, quand vous allez dans des promotions, dans des auditoires, on a beaucoup de femmes, on a aussi autant d'étudiantes que des étudiants. Je me dis encore une fois que les femmes, quand elles ont terminé, est-ce qu'elles ont pris le temps d'aller travailler? Est-ce que ces femmes prennent en compte qu'elles doivent peser de leur poids sur le plan professionnel? Je ne crois pas, elles restent à la cuisine préparée, elles sont dans les rues. Encore un deuxième problème, les femmes ne sont pas sensibilisées. Du point de vue de leur thème, est-ce que beaucoup de femmes aujourd'hui savent, si vous leur demandez en cours de route, quel a été le thème de cette année de la Journée mondiale de la femme, elles ne savent pas, beaucoup de femmes, mais quand il y a des émissions, qui ne sont pas politiques, c'est des émissions scientifiques à la télévision, mais ce sont pas ces émissions-là, elles ne suivent pas ces émissions, elles suivent plutôt des dessins animés, des trucs qui n'apprennent pas, qui n'apprennent pas quelqu'un à se responsabiliser. Voilà pourquoi la femme aujourd'hui doit être responsabilisée. La parité. C'est là-bas que moi j'insiste beaucoup plus.
Merci Edouard. Donc la femme doit se battre pour pouvoir être reconnue, reconnaître ses compétences. Vous vous étonnez du fait que dans les universités, on a autant d'hommes que de femmes, mais sur le marché de l'emploi, on a moins de femmes qui occupent ou bien qui exercent leur métier. Mais aussi, vous parlez de l'information. Il est nécessaire que la femme soit informée pour mieux s'approprier et mieux se battre pour revendiquer ses droits. Merci Edouard de Lumbashi. Marcel, vous êtes à Colosie, bonjour.
Bonjour madame.
Oui Marcel, nous vous écoutons.
Bon, je voulais dire ceci. Faire participer la femme dans les organes de grandes décisions au pays, c'est vraiment une très bonne chose. Mais il se fait que nous connaissons un problème ici en République démocratique du Congo. On ne peut pas forcer quelque chose qu'on a initié et directement, on voudrait que ça s'applique automatiquement avec, je ne sais pas comment dire, à 100%. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec notre journée du 8 ici. C'était un problème très sérieux puisque moi personnellement j'ai eu l'impression que la femme n'a pas compris pourquoi cette journée du 8.
J'ai suivi dans quelque part en Europe là, où la femme, pour cette journée du 8, quelque part, elle a déclaré que pour une femme qui fait le même travail que l'homme quelque part, le salaire qu'on a attribué à cette femme était minime par rapport à celui qu'on a donné à l'homme.
Mmh.
Voilà, pour cette journée, la femme a profité de cette occasion pour revendiquer ses droits. Est-ce que c'est le même travail? Elle est aussi indignée. Il a droit au même salaire que l'homme. Contrairement à ce que nous avons vécu ici chez nous en République démocratique, pour cette journée, elle a réclamé un libertinage. Il fallait aller s'enivrer, il fallait abandonner la maison, il fallait faire des bêtises.
Non, à votre avis, la femme, s'il vous plaît, Marcel, donc pour vous, la femme n'a pas profité de cette occasion, du moins les femmes que vous avez rencontrées à Colosie, ce que vous avez constaté à Colosie, c'est que les femmes de Colosie n'ont pas saisi l'occasion pour revendiquer certains de leurs droits et rappeler leur situation. Donc à votre avis, c'est la femme qui doit faire un effort pour arracher ses droits. S'il vous plaît, Marcel, nous allons prendre Madame Ayman Kala. Nous allons revenir à vous, Marcel, pour que vous puissiez faire des propositions, pour qu'elle puisse accéder à des prises des postes de prise de décision. Mais le temps d'écouter aussi Madame Ayman Kala, parce qu'elle est vraiment pressée. Elle nous accorde quelques minutes pour qu'elle puisse donner son point de vue. Bonjour, Madame Ayman.
Oui, bonjour.
Oui, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Donc aujourd'hui, nous parlons de ce communiqué de l'Observatoire de la parité où, à partir des chiffres, on a constaté que la femme, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, elle n'a toujours pas pu atteindre les 10%. Les candidates, on était à seulement 12% des candidats présentés aux législatives. À la présidentielle, c'était nul. Et même au niveau des électeurs de l'électorat, en 2006, la femme avait constitué 52% de l'électorat. En 2011, c'est 49%. Au regard de tous ces chiffres, madame, quelle est votre réaction?
J'estime, en ce qui me concerne, que rien ne change. En 2006, nous avons déploré, lorsque les élections ont eu lieu, qu'il fallait accompagner les femmes, soutenir les femmes, afin qu'elles se retrouvent plus nombreuses là où se prennent les décisions. Les lois existent, la constitution est claire là-dessus, la parité est là dans les textes, dans les traités internationaux, les conférences organisées, tout ce que vous voulez, mais dans les textes, c'est toujours la même chose. La même chose parce que même l'Observatoire, ainsi que tous les autres organismes qui s'intéressent à ce genre de questions ne font aucun effort pour que cette situation soit corrigée. Aucun effort.
Et à votre avis, quels sont les efforts qui doivent être menés pour changer? Par exemple, l'Observatoire...
Il y a eu des pays qui ont eu des parlements paritaires.
Mm-hmm.
Ce n'était pas le fait du hasard. C'est toute la société qui s'est impliquée. Et les hommes et les femmes. Mais chez nous, les problèmes des femmes sont exclusivement réservés aux femmes. Les hommes, d'une manière générale, ne s'intéressent pas, ne se sentent pas concernés. Les mentalités sont toujours très rétrogrades vis-à-vis de la femme. Les hommes considèrent que le changement doit être apporté par les femmes seules. Les questions des droits de la femme doivent être considérées comme des droits humains. Les droits des femmes, ce sont des droits humains. C'est des droits qui concernent toute la société, qui concernent les responsables politiques, qui concernent toute la société d'une manière générale. Or ici, les problèmes des femmes, c'est les femmes seulement. C'est comme si les femmes allaient faire un gouvernement pour elles, un parlement pour elles, les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Les mentalités, il faut voir les discussions simplement dans les ménages. Il faut voir tout simplement comment dans les familles, l'éducation qu'on donne aux filles et aux garçons. Ça commence très tôt. Il faut une distinction nette déjà dans les familles entre le garçon et la petite fille. Et ça ne peut pas se corriger en une élection où il n'y a que les femmes qui s'impliquent. Même l'Observatoire qui vient faire des observations, qui donne les statistiques aujourd'hui. Lorsque les élections se sont organisées, on n'a rien senti. Il y a des institutions ici en place, nous avons vu comment le ministère se bat, mais en dehors de cela, les autres institutions ne bougent pas, ne font pas ce qu'ils font faire pour qu'il y ait des changements.
Et maintenant,
il y a moins de 30%, moins de 10%, mais bientôt il y aura des élections aussi dans un an, des élections sénatoriales. Je voudrais voir que l'observatoire s'implique aujourd'hui.
Oui,
je voudrais voir les institutions qui sont mises en place s'impliquer pour qu'il y ait des changements. Les questions qui concernent les femmes, ça ne devrait pas concerner les femmes. Tellement, dans les partis politiques, tout ce qu'on fait pour que les femmes se retrouvent.
Oui, s'il vous plaît, madame, vous-même, s'il vous plaît, madame.
Une meilleure conscience aujourd'hui, mais ça ne suffit pas, c'est toute la société qui doit s'engager.
Et s'il vous plaît, madame, vous-même faites partie d'un parti politique. Le fait que l'Observatoire lance ce communiqué, ça signifie qu'elle tire sur déjà la sonnette d'alarme, c'est déjà un pas dans la lutte. Mais dites-nous, au niveau par exemple des partis politiques, c'est vrai que les prochains scrutins approchent. Bientôt nous aurons les provinciales ainsi que les sénatoriales, sans oublier les élections locales qui pourront venir dans quelques mois ou dans l'année prochaine. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait actuellement pour que les femmes puissent se battre et être mieux représentées?
Je dirais qu'au niveau des partis politiques, il y a des efforts qui sont faits dans certains partis politiques. Moi-même, je suis responsable d'un parti politique. Mmh. Aujourd'hui, je m'occupe de la gestion quotidienne du parti.
Mmh.
Il y a des efforts dans la plupart des partis politiques, mais je dis que ça ne suffit pas. Lorsqu'il fallait mettre la parité dans la Constitution, le chef de l'État a aidé et intervenu. Les femmes sont allées à gauche, à droite, ont contacté, ont fait des lobbying, ont fait un grand plaidoyer. C'est comme ça que la parité est apparue dans la Constitution, mais comme je dis, c'est dans l'application, c'est dans le fait. Je dis, il y a eu des parlements paritaires, il y a eu des organisations spécifiques, il y a eu un appui spécifique pour que les femmes puissent se retrouver. Il y a eu une volonté pour que les femmes puissent se retrouver. Cette volonté-là, on ne la sent pas. On ne la sent pas ici, je regrette, on ne la sent pas. On voit seulement, lorsque les élections se terminent, les statistiques. Mais qu'est-ce qu'on va faire des statistiques s'il n'y a pas eu une volonté expresse, s'il n'y a pas eu des efforts pour accompagner les femmes? Au moment où moi-même j'étais candidate, au moment où les élections se tiennent, on ne parle pas en ce moment-là de la parité. C'est lorsqu'on voit les résultats qui sont toujours la même chose, que tout le monde vient tirer la sonnette d'alarme. Je lance un appel à tout le monde, faisons, ayons un comportement différent, un comportement nouveau, afin qu'il y ait des changements pour les élections à venir.
Merci beaucoup, Madame Aïma Kala, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour échanger sur les questions qui concernent les femmes. Nous allons revenir à Marcel de Colésy. J'espère qu'il est toujours avec nous. Marcel, vous allez vraiment nous excuser qu'on ait donné plus de priorité à la dame. C'est son émission aujourd'hui. Donc, Marcel, quelles sont vos propositions?
Pour moi, je voudrais proposer ceci, que l'homme se mette à préparer effectivement la femme, puisque apparemment c'est l'homme qui est en train de priver ses droits-là à la femme, puisque il envoie la femme brutalement dans les organes comme ça, et elle n'est pas préparée, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, la femme ne se retrouve pas puisque elle y va brutalement. Il faut du temps pour préparer et faire comprendre à la femme ce qu'elle doit faire. Et la femme devra aussi faire un effort pour changer son comportement et mériter vraiment ses droits là-bas. Parce que quand elle s'embrouille à faire n'importe quoi, c'est ce qui fait qu'elle perd elle-même la confiance et la femme qui est à côté d'elle ne peut pas prendre en considération sa candidature et sa tournée au vinaigre.
Merci beaucoup, Marcel, de votre point de vue. Sur cette question, il y a Joseph Apollo de Bukavu qui nous a écrit ceci. Ce communiqué est juste venu nous faire un état de lieu de la place qu'occupe la femme au sein de l'Assemblée nationale. Quant au taux occupé par la femme à l'hémicycle, il n'y a pas à s'inquiéter, car pour que la parité soit, il faut que la parité soit revendiquée chaque jour, et pour qu'elle soit effective, il faut qu'il y ait les mêmes atouts, que les femmes présentent les mêmes atouts que l'homme. La parité homme-femme ne veut pas seulement dire que là où il y a 50 hommes, il doit nécessairement y avoir 50 femmes, mais cela revient aussi à considérer l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je pense que les femmes doivent trouver leur talent pour prétendre accéder à des instances de prise de décision et non croire que cela tomberait du ciel comme la manne. Pourquoi les femmes n'ont pas voté pour les femmes qui sont portées candidates au cours des dernières élections? Or, les statistiques prouvent qu'elles pouvaient le faire. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Voilà la déclaration de Joseph Apollo qui se trouve à Bukavu. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Non, c'est plutôt Étienne. Bonjour Étienne.
Ah, bonjour Radio Capi et bonjour à tous les auditeurs.
Oui, Étienne, nous vous écoutons.
Ok, merci madame. Quant à cette problématique de la femme et surtout la faible participation de la femme aux élections passées, madame, c'est prévisible parce que depuis les temps anciens, il y a trois grands problèmes, trois grands aspects qui heurtent l'émancipation de la femme. Sur le plan, par exemple, dans les temps anciens, les femmes n'avaient pas cette culture-là de se prendre en charge. Et surtout que la femme, en fait, a ce que nous appelons le complexe d'infériorité. Donc, la femme n'est pas tellement à mesure de faire face à certains problèmes. C'est pourquoi vous verrez que la femme, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien que nous parlons parité, bien qu'on parle émancipation, mais elle n'est pas tellement à mesure de faire face à certains problèmes. Et aussi, il y a un problème, parce que les femmes ne s'aiment pas entre elles, c'est comme un auditeur venait de le dire là. Madame, si nous considérons la société de notre pays, les femmes sont doublement nombreuses que les hommes. Mais si aujourd'hui, si les femmes faisaient confiance à leurs collègues femmes, on aurait peut-être plus de 400 députés femmes.
Oui, et à votre avis, Étienne, tout ce qu'il faut, oui, parce que nous parlons des solutions. Nous faisons allusion aux solutions, aux propositions pour sortir de cette réalité. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les femmes puissent avoir confiance aux femmes?
Ok, je propose ceci. Il faut qu'on puisse multiplier les conférences, qu'on puisse multiplier des séminaires en faveur de la femme, ça permettra à ce que la femme puisse connaître et savoir qu'elle est importante dans la société. Et parce que aujourd'hui la femme n'est pas tellement informée qu'elle doit faire quelque chose pour la société congolaise. C'est pourquoi vous voyez à certains aspects, la femme se retire pour parler à cela. Madame, je souhaiterais qu'il y ait des séminaires, des conférences pour pouvoir montrer à la femme son importance dans la société.
Merci beaucoup. Merci
Étienne. Les femmes puissent se pointer nombreuses.
Merci Étienne de Guémena. Il y a Jean-Pierre qui nous écrit ceci. Nous assistons à un forcing contre nature. Ce n'est pas l'ordre normal des choses établi à mon humble avis. Donc pour lui, la parité, c'est contre nature. Sylvain Moulumba de Lubumbashi, la responsabilité revient à la femme elle-même. C'est elle qui doit présenter sa volonté. Pourquoi on doit la soutenir? Donc il ne faut pas forcer. Corneille Juvenal nous écrit ceci. La prise de décision de la femme est bonne, mais chose étonnante, les femmes elles-mêmes ne sont pas sûres d'elles. La culture africaine montre que la femme est toujours en dessous de l'homme. Il y a aussi Benita Kambaza qui nous écrit ceci. On ne peut pas placer n'importe quelle femme à n'importe quel poste. Le fait qu'elle soit seulement femme ne peut pas lui donner ce privilège. Donc celle-ci doit être capable, compétitive, compétente pour assurer ses fonctions. Joseph, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes à Kananga. Le temps qu'on puisse redonner la parole à notre invité pour une réaction face aux avis de cette deuxième série d'auditeurs.
La vie des programmes des Radio Okapi fait l'objet de quelques ajustements à partir de ce mercredi 14 mars 2012. Désormais, l'invité du jour sera diffusé deux fois dans la matinale, à 5h45 et à 7h33, heure de Kinshasa. Découvrez un extrait de parole aux auditeurs du lundi au vendredi à 6h25 et à 8h37. La revue de presse quinoa sera également diffusée à 12h52. Radio Kapi, Triple Voix du Congo. Parole aux auditeurs.
Madame Espérance Mawazo, nous revenons à vous en écoutant les auditeurs. Nous sentons que pour eux, il faudrait suffisamment de temps pour que la femme arrive à se confirmer et à faire établir cette parité. Quel est votre point de vue, madame? Madame Espérance Mawazo, nous avons perdu notre invitée. Nous allons la rappeler pour qu'elle puisse réagir. Je rappelle que c'est Madame Espérance Mawazo qui est directrice de l'Observatoire de la Parité. L'Observatoire de la Parité qui a rendu public le 8 mars dernier un communiqué où l'Observatoire faisait une analyse de la situation sur base des statistiques de la première étape du processus électoral de ce second cycle électoral concernant la parité. Le communiqué révèle que les femmes élues à l'Assemblée nationale n'ont pas franchi le seuil des 10% du nombre des députés nationaux. Les candidats à la présidentielle, il n'y avait aucune femme parmi les candidats à la présidentielle. Et les nombres des candidates aux législatives, elle n'a pas franchi le seuil des 12% sur les 18 864 candidats. Cette diminution de la participation de la femme est également constatée au niveau du fichier électoral. En 2006, les femmes constituaient près de 52% de l'électorat. En 2011, les femmes ont représenté que 49% de cet électorat. Et l'Observatoire de la parité lance ainsi un nouvel appel urgent pour que les organisations de défense des droits des femmes ainsi que toutes celles ou ceux qui militent pour l'égalité homme-femme se concentrent et pouvoir se concerter d'urgence pour fixer des stratégies afin d'affronter les prochains scrutins. Et la question qui est au centre de notre émission, que vous inspire ce communiqué? Que proposez-vous pour que les femmes accèdent à des postes de prise de décision? Nous avons un message de Jean-Marie Zialiroy qui nous écrit ceci. Les femmes veulent mettre la charrue devant le bœuf. Tous les hommes sont égaux en droit et en dignité. Quand les femmes apprendront à faire mieux que les hommes, elles seront majoritaires dans les institutions démocratiques. Joseph Cavadi nous écrit ceci. Mais soyons sérieux, on ne donne pas à quelqu'un ce qu'il ne demande pas. Il y a des conditions pour être élu député. On doit aller dans la rue chercher des femmes pour qu'elles soient votées. Écoutez, les femmes doivent se battre comme les hommes pour mériter. Bonjour Joseph. Joseph, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Oui, Joseph, nous vous écoutons. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup. Je voudrais intervenir par rapport au sujet du jour. Je voudrais soulever deux points. Mais avant cela, je voudrais d'abord dire que la parité viole à la loi de Dieu qui prévoit que la femme ne soit pas égale à l'homme. C'est peut-être la conséquence de la faible participation, représentativité de la femme à la chose publique. Pourquoi peut-être la femme ne se retrouve pas.
Mais s'il vous plaît, moi, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît, Joseph, s'il vous plaît.
Femme a toujours
s'il vous plaît, Joseph.
De s'exprimer devant les hommes.
S'il vous plaît, Joseph.
Oui.
Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, la question du genre, c'est une égalité des chances. Ce n'est pas une question que l'homme ou la femme sont égaux, ce sont des êtres qui sont totalement différents et complémentaires. Mais la question du genre, c'est une question d'égalité de chance et non de voir la biologie ou la physiologie. Égalité des chances.
Parce que la femme a été créée pour être soumise à l'homme. Alors la femme doit se contenter des travaux ménagers. Rappelez-vous en 2006, lorsqu'il y a eu quand même un pourcentage élevé de la femme dans la chose publique, combien de ménages ont été abandonnés par rapport aux travaux ménagers. C'est pourquoi je voudrais un peu soulever ce
point. Donc, si vous épousez une femme, vous l'épousez pour faire la bonne chez vous
Au moins,
elles s'expriment devant les hommes, c'est bien, mais c'est par rapport à certains complexes de la femme, elles voudraient que non, se faire valoir, mais en vrai, elles ont honte de mettre devant les hommes.
Oui.
Deuxièmement, pendant la campagne, j'ai eu à auditionner certaines femmes, elles ont dit que non, les femmes qui sont venues dans cette campagne vers nous, elles ont l'habitude de gérer, de se faire valoir, j'ai dit presque non, c'est l'orgueil de la part de la femme qui fait que non, d'autres femmes ne puissent pas élire pour eux. Moi, je dis, la femme doit fournir l'effort.
Oui. Donc, pour vous, votre conception, la femme doit être soumise, donc, la femme c'est l'être inférieur. Et comment voulez-vous qu'elle fournisse un effort, c'est déjà pour vous
Oui. Et puis, la femme doit être simple par rapport à votre femme.
Oui, merci beaucoup Joseph, mais vous ne pensez pas que c'est assez difficile, parce que pour vous au début vous avez dit la femme doit être soumise, la femme est inférieure à l'homme, mais comment voulez-vous qu'elle puisse se battre si déjà vous dites qu'elle ne peut pas...
Elle doit se battre par rapport à l'égalité des chances qu'on vous l'a dit.
Ah ok, mais donc là...
La loi de Dieu n'a pas prévu que la femme soit égale à l'homme, même par rapport à l'égalité des chances.
Merci Joseph, c'est votre point de vue et je rappelle que vous intervenez à partir de Kananga au Café Occidental. Nous avons Jean-Pierre Mokai de l'ICASI. Tant que la femme continue à se sous-estimer, elle n'occupera jamais un poste de prise de décision. Il y a également Olivier Akindoua qui nous écrit ceci. À mon avis, je trouve que la femme congolaise demande ce qu'elle ne peut pas demander parce qu'il y a une loi, l'article 14 de la Constitution, qui donne à la femme les mêmes droits que l'homme. Elle-même reste aveuglée et je pense qu'aux élections, elles feront mieux, elles feront des meilleurs scores lors des prochains scrutins, donc ça ne sert à rien. C'est la femme plus réclamer la parité parce que la Constitution reconnaît cela. Nous avons en ligne Madame Eve Bazaïba. Bonjour Madame.
Bonjour Madame la journaliste.
Et vous avez été élue députée nationale, ancienne sénatrice et actuellement vous êtes encore présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Nous parlons de ces statistiques qu'a soulevé l'Observatoire de la parité où la participation de la femme, la représentation de la femme au niveau des institutions est assez faible, mais aussi même au niveau de l'électorat, le pourcentage ont diminué, on est passé de 52% en 2006 à 49% en 2011. Dites-nous, comment réagissez-vous face d'abord à ce communiqué?
Oui, je voudrais d'abord corriger certaines choses. 52% à 49% en 2011, non. En fait, en 2006, à l'Assemblée nationale, il y avait 42 femmes élues. Et en 2011, il y a 47 femmes élues. Donc, on a augmenté à 5 femmes seulement.
S'il vous plaît, Madame Eve, nous parlons de l'électorat, avec la révision du fichier
électoral. Oui. Oui, voilà.
Mm-hmm.
En ce qui concerne l'électorat, c'est normal. En 2006, les élections étaient plus ou moins, j'ai dit, bien organisées avec l'appui de la communauté internationale qui s'était aussi très bien impliquée. Par contre, en 2011, il s'est posé un problème de perturbation des élections. D'abord, lors de l'enregistrement, donc de l'enrôlement, on a enrôlé plusieurs fois, il y a eu plusieurs cas, il y a eu beaucoup de problèmes, pas de routes, l'insécurité. Les femmes qui s'occupent justement des foyers, de la survie de la famille, n'ont pas voulu aller risquer à faire des 50 km, 45 km dans la forêt pour aller chercher un centre d'inscription. Il y a eu perturbation. Ce sont des éléments qui ont diminué l'électorat de la femme. Et aussi, la mauvaise gestion de la chose publique par les personnes qui étaient élues, le mandat 2006-2011, la population dont la majorité est constituée des femmes, la population n'a pas trouvé son compte, la population a été découragée. Donc, la majorité de la population constituée des femmes a été découragée à s'impliquer dans ce processus électoral. Ça, je vous comprends. Alors, pourquoi cela? J'ai donné déjà des exemples, mais je voudrais dire, et aussi aux auditeurs de la radio Okapi et à tout le peuple congolais, que si nous insistons sur l'implication des femmes dans les instances de prise de décision du pays, c'est parce que longtemps notre pays est dirigé par une monovision, de manière monolithique, par la minorité constituée des hommes qui veut diriger tout le monde. De 1960 à ce jour, le pays a été dirigé en grande partie par les hommes. Quel est le résultat que nous avons de la gestion du pays? Nous sommes PPTE, pays pauvre, très endetté, avec tout ce qu'il y a comme situation précaire de la population, des frustrations, la mauvaise gouvernance, nous le voyons. Mais nous ne condamnons pas le fait de la mauvaise gestion par les hommes. Nous disons, parce que les hommes ne maîtrisent pas tous les paramètres de la vie nationale, pour diriger un pays, il faut comprendre toutes les spécificités liées à l'être humain, l'homme avec grand H, qui est le centre de la problématique de gestion. Donc, comprendre les besoins de l'homme et les besoins de la femme qui constituent justement cette unité qui est la population de la République démocratique du Congo. Donc, pour le moment, dans le monde entier, nous avons fait ces statistiques, les chercheurs ont trouvé, et c'est la vérité, que pour qu'on aille dans un développement durable, il faut capitaliser les apports.
Oui, s'il vous plaît, madame, je vous invite à suivre notre bulletin d'information. Restez en ligne parce que nous aurons une seconde partie des paroles aux auditeurs.
La grille de programme des Radio Okapi fait l'objet de quelques ajustements à partir de ce mercredi 14 mars 2012. Désormais, l'invité du jour sera diffusé deux fois dans la matinale, à 5h45 et à 7h33, heure de Kinshasa. Retrouvez un extrait de parole aux auditeurs du lundi au vendredi à 6h25 et à 8h37. La revue de presse chinoise sera également diffusée à 12h52. Radio Kapi, toute la voix du Congo.
Nous poursuivons les paroles aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de la femme, sa représentation au sein des institutions, au sein des postes de prise de décision, avec ce constat de l'Observatoire de la parité qui a indiqué dans un communiqué rendu public le 8 mars dernier que les femmes élues à l'Assemblée nationale n'ont pas franchi le seuil des 10% du nombre des députés nationaux. Le nombre des candidats à la présidentielle était nul, tandis qu'aux législatives, les femmes ont représenté seulement 12% des 18 864 candidats. Cette diminution de la participation des femmes est également constatée lors de la révision du fichier électoral en 2006. Les femmes constituaient près de 52% de l'électorat et en 2011, les femmes ont représenté 49%. L'Observatoire de la parité lance un nouvel appel urgent pour que les organisations de défense des droits des femmes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui militent pour l'égalité hommes-femmes, se concertent d'urgence ainsi de fixer des stratégies pour affronter les prochains scrutins. Que vous inspire ce communiqué et que proposez-vous pour que les femmes accèdent à des postes de prise de décision? Notre invitée était Madame Espérance Mawazo, elle est directrice de l'Observatoire de la parité. Entre-temps, en ligne, nous avons gardé Madame Eve Bazaïba, qui a été élue députée nationale, ancienne sénatrice, et actuellement, elle est aussi présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Avant que vous repreniez la parole, Madame Eve Bazaïba, je vous invite à suivre Louis-Serge, qui est à Kikwit, Moïse de Manono, et aussi nous allons lire quelques avis des auditeurs pour que vous puissiez poursuivre ce que vous êtes en train de nous dire dans le combat de la femme pour pouvoir occuper les postes de prise de décision. Bonjour Louis-Serge. Louis-Serge, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous vous écoutons, quel est votre point de vue?
Ah bien, la lutte des femmes, elle est le problème. Il y a des femmes qui sont vraiment intelligentes, compétentes pour remplir le rôle au niveau de décision supérieure. Mais tout a été dit. Voilà ma petite remarque. Ici, dans la province, il y avait vide au niveau du gouvernorat. Mais nous apprenons à notre grand étonnement parce que beaucoup de gens croyaient que parmi les candidats, il y aura aussi une femme. La question qui se pose est celle de savoir. Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont jeté l'éponge on les a interdits de déposer les candidatures, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'on parle de la parité, il y avait deux postes, gouverneur et vice-gouverneur. Est-ce qu'une femme ne pouvait pas convenir, parce que dans la majorité présidentielle, il y a des femmes qui sont intelligentes, qui pouvaient, par exemple, poser leur candidature aussi, parce que cette fois-ci, la plupart des gens croyaient que, bon, cette fois-ci, c'est une maman qui va passer pour voir, pour faire un peu la différence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à...
Merci, Lucien. Donc, à votre avis, vous posez des questions pour savoir si les femmes, carrément, ont laissé tomber, pourquoi elles ne se sont pas présentées à ce poste-là. Nous prenons Moïse de Manono. Bonjour.
Bonjour, Marie-Saint-Penomba. Bonjour aussi à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Oui, madame, moi, j'aimerais dire quelque chose. Généralement, la femme congolaise n'a pas beaucoup étudié. Mais vous êtes en train de forcer pour qu'elle ait une place de décision. Premièrement, vous devez vous lutter contre l'analphabète. Et maintenant, c'est alors que vous chercherez des mesures comment on intégrer la femme dans la politique de mouvement et aussi à des postes de décision. Voilà ma préoccupation.
En vous écoutant, vous dites que la femme n'a pas des compétences pour pouvoir occuper certains postes.
Oui, madame, vous savez que la femme a toujours eu des complexes devant les hommes. Est-ce que la femme se sera parlée dans l'Assemblée défendre sa nation puisqu'elle a été élue?
Donc, vous posez des questions. Moïse, n'oublions pas qu'au cours des dernières élections, il y a déjà plus de 47 femmes, comme l'a dit Mme Bazaïda, qui est élue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous doutez si elle pourrait avoir ses compétences. Moïse, restez vraiment en ligne, parce que juste après vous, c'est Mme Eve qui va répondre à ses préoccupations, parce que vous posez des questions pour savoir... Est-ce que une femme peut être assez compétente? Donc, écoutez la réponse de Madame Eve. Bonjour Madame Eve.
Bonjour.
Vous êtes toujours avec nous. Donc, vous avez suivi ce que pense Moïse de Manono. Quelle est votre réaction?
Oui, je comprends l'inquiétude de nos compatriotes belgiques d'abord en ce qui concerne la candidature au poste de gouverneur et aussi en ce qui concerne l'analphabétisme. Récurrente chez les femmes pour notre compatriote de Manono. Mais je voudrais dire ceci. Nous sommes enfermés dans un camp. Au même moment, nous voulons la démocratie. Au même moment, cette démocratie n'est pas ouverte. La démocratie au sein des partis politiques, ici, je réponds rapidement à ce qui concerne la situation de Bandungu. Au sein des partis politiques, les choses ne se libèrent pas. Il s'agit de la désignation de qui sera candidat de tel ou tel parti politique. Dans le Bandundu, par exemple, tous les problèmes se situent à ce niveau-là. Il y a des femmes qui se sont proposées, que ce soit dans les Palou ou dans l'ensemble, dans le MP, PPRD et les consorts. Mais il s'est posé un problème de libération de la démocratie au niveau de ces partis politiques. Donc, nous devons mettre en place des stratégies pour savoir. Faille-t-il qu'elle constitue à s'enfermer dans les partis politiques où elle se libère? Est-ce que ça ne sera pas vu comme étant vagabondage politique et tout? Nous allons en trouver des stratégies. Mais sinon, il y a des femmes capables. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu justement des femmes pour Bandundu, parce que ça aurait changé la donne. Je vais dire pourquoi. Alors, en ce qui concerne Manono, je comprends aussi la préoccupation. Les femmes n'ont pas beaucoup étudié, mais elles ne seront pas. Il y a autant de femmes qui n'ont pas étudié, il y a autant d'hommes aussi qui n'ont pas étudié. D'ailleurs, pour votre information, en matière d'éducation, la situation n'a fait que dégringoler. Nous vivons maintenant un nivellement vers le bas, que ce soit du point de vue du côté de l'éducation des hommes ou des femmes. Mais vous savez qu'au Parlement, nous avons des hommes qui ne savent ni lire ni écrire. Mais toutes les femmes qui sont au Parlement actuellement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, savent lire et écrire. Mais pour les hommes, on n'en fait pas, on ne met pas ça en exergue. Je ne suis pas, je ne favorise pas la non-éducation. Mais j'insiste pour dire quelle stratégie prendre. Comme pour le moment, nous sommes en train de dire ceci. Le mois de la femme, mois de mars 2012, mois des enjeux politiques de haute facture. Nous demandons aux partis politiques, aux décideurs, que cette fois-ci, les femmes participent dans la haute instance
dites interinstitutionnelles, même si c'est informel, c'est là où les décisions du pays se prennent. Il faut qu'une femme
oui, et voilà. Et pour cela, vous avez même souhaité qu'une femme soit nommée niveau de qu'une femme soit nommée au poste de premier ministre ou président de l'Assemblée nationale.
C'est le mois où on met en place le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous voulons que le parti politique propose une femme qui va être élue présidente de l'Assemblée nationale ou alors une femme premier ministre. Parce que nous disons ceci, la présence des femmes dans la politique change de priorité politique. Parce que ces priorités, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les femmes sont là, elles produisent des résultats concrets. Il faut un nombre suffisant de femmes parce que les femmes ont une certaine sensibilité aux problèmes sociaux, surtout liés à la lutte contre la pauvreté, l'éducation des enfants. Et les femmes ont déjà pris conscience que il faut absolument des questions concrètes qui amènent au développement. La vision de l'homme, c'est vrai, c'est la vision de la sécurité, la vision de la défense, nous n'en disconvenons pas, mais la vision de la femme qui est celle des questions sociales permet à ce qu'on mette ensemble la vision de l'homme et de la femme pour qu'il y ait justice et égalité. Oui. Tout déficit d'égalité à ce niveau-là, dans tous les domaines, c'est le déficit totalement de la démocratie. Et là où il n'y a pas de démocratie, je vous dis, c'est le sous-développement qui s'y installe.
Donc les femmes doivent continuer ce plaidoyer pour pouvoir arracher ses droits. C'est l'une des manières pour que cette parité soit effective. En tout cas, Madame Eve Bazaïba, merci beaucoup. Nous arrivons ainsi à la fin de cette émission. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous remercions également Madame Espérance Mawazo. On n'a pas pu la récupérer parce que la liaison téléphonique ne faisait que se détériorer. Ça a été assez difficile pour l'avoir même au cours de cette émission. Nous remercions également tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont suivis avec attention.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Demain, l'émission se penchera sur la Cour pénale internationale qui a rendu son premier verdict depuis sa création en juillet 2002. Un verdict du procès Thomas Lubanga qui est reconnu coupable de crimes de guerre pour avoir utilisé des enfants en soldats. Que vous inspire ce jugement de la Cour? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiosafi.net ou en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs, bientôt la page qui porte le logo de Radio Sapi. Christine Toussou, Florent Kouboula, j'étais Fiala. On réalisait demain de mettre cette émission. Restez branchés sur Radio Sapi pour la suite de ces programmes.